Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. J'en profite pour remercier Dounia qui nous a laissé le commentaire suivant. Ce podcast est une grande source d'inspiration. Il permet de partager les chemins de personnes qui se sont interrogées sur la notion de sens et oser avancer vers leurs rêves. Podcast animé avec passion et humanisme, je recommande. Merci infiniment, Dounia.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Eh ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh.
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Il est complètement fou, ce mec.
À demain.
Aujourd'hui, je reçois le docteur Khaled Almezayen. Il est CEO et cofondateur de Innovaya. Inno pour innovation, Aya pour eau. Leur mission? Étancher la soif dans le monde. C'est une entreprise française basée à Lyon, spécialisée dans le développement de nouvelles technologies visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans le monde entier, de la République démocratique du Congo au Laos, en passant par les Philippines. Les zones isolées, camps de réfugiés, zones de guerre, mais pas seulement. On pense que les problématiques liées à l'eau et sa raréfaction ne concerne pas la France, parce que même notre chasse d'eau est potable, mais ce n'est pas le cas, et on va en parler. Khaled est moitié syrien, moitié roumain. Il est né en Roumanie, donc, arrivé en France à 5 ans, il a aussi vécu en Syrie. C'est au bout de 8 ans d'études qu'il décide d'y ajouter une école de commerce et de devenir papa en même temps. Il découvre les camps de réfugiés sur le terrain pendant une mission humanitaire. L'or bleu, l'eau, manque. Et lui et ses petits bras semblent bien impuissants malgré sa présence sur le terrain. Khaled croit très fort que la technique doit être au service de l'humain et pas le contraire. Il porte une attention particulière à traiter le problème et pas le symptôme. Pour lui, l'eau ne doit pas être une option, mais bien un droit. Il dit, je cite, dans sa conférence au Diversiday, « J'ai l'intime conviction qu'on peut y arriver ». Parce que l'heure est grave, toutes les 15 secondes, un enfant de moins de 5 ans meurt par manque d'eau ou par maladie hydrique. C'est massif. Allez, je vous laisse découvrir le personnage. Khaled, bienvenue sur le podcast Insensé. Comment tu te sens aujourd'hui ?
Je me sens très bien, c'est une très belle journée en plus, il fait beau à Lyon. Et je suis hyper motivé. Voilà.
Eh ben écoute, Chamé, on a besoin de tout ça pour cet épisode. J'aimerais commencer cet épisode en mettant en lumière ton parcours. On a vu 2-3 étapes de ton parcours dans l'introduction. Et ce que j'aimerais que tu nous mettes en lumière, c'est les chemins de traverse, les petits déclics que tu as eus sur ton chemin qui t'ont permis de bifurquer. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oula, alors des chemins de traverse, oui, il y en a eu, des déclics, il y en a eu énormément. Très jeune, j'ai été sensibilisé de par ma famille, de par mes parents qui sont tous les deux médecins. J'ai été sensibilisé à l'humain, à avoir envie d'aider les autres. Et très jeune, j'ai voulu le faire et j'ai voulu aider les autres. Et j'ai commencé ma vie, on va dire, d'une façon un peu atypique parce que, comme tu le sais, je suis à moitié roumain et à moitié syrien. Je suis né en Roumanie à une époque où c'était pas forcément évident parce que c'était avant les années 90 et il y avait encore le communisme. Après la chute du mur de Berlin, on est venu vivre en France. Et effectivement, ma vie a un peu changé parce que j'ai eu l'opportunité et la chance de vivre dans un pays incroyable qui est la France, mais également de beaucoup voyager et de me rendre compte de la chance que j'avais très rapidement. J'en étais très rapidement conscient. Et donc, j'ai voulu suivre un petit peu les traces de mes parents. J'ai voulu faire un métier dans la santé. Au départ, j'ai voulu faire médecine, et puis après, je suis allé en pharma parce que finalement, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup plus. Comme tu l'as dit également, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vécu en France et j'ai également vécu en Syrie où j'y ai fait mon lycée, mon collège et mon lycée, au lycée français de Damas.
Là, c'était un retour aux racines.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de la France pour aller faire ton collège et ton lycée là-bas?
C'est mes parents, hein. C'est des décisions de mes parents en fait. C'est eux qui bougeaient beaucoup. Mon père avait une opportunité de travail en Syrie et il voulait rentrer en Syrie pour apporter ses connaissances et son savoir-faire au pays quoi. Voilà, parce que mon père est chirurgien et donc il voulait rentrer dans son pays d'origine pour améliorer les choses. Un peu, je pense que j'ai été pas mal inspiré par mon père parce que je suis rentré en Syrie, pardon, pas en Syrie, je suis rentré en Roumanie en 2012, parce que je voulais revenir un petit peu aux racines et entreprendre en Roumanie. J'avais envie d'entreprendre dans le pays où je suis né, en fait. Et c'est là où j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Oui, c'est des... Comment dire, j'ai été beaucoup inspiré par mes parents et par leur dévouement pour les autres, de par leur métier et leur envie de faire changer les choses dans leur pays respectif. Voilà.
Et t'as fait donc des études de pharma et le rapport entre les études de pharma et l'entrepreneuriat, parce que c'est pas hyper courant non plus.
Alors. Non, c'est pas hyper courant, effectivement. J'ai jamais vraiment voulu faire pharmacien d'officine. Donc peut-être que tu sais, mais quand tu fais des études de pharma, tu peux faire pharmacie d'officine, pharmacie hospitalière ou pharmacie industrielle. Moi, j'ai choisi la voie industrielle. Parce que j'étais attiré par le côté on va produire, on va créer des choses pour améliorer la santé des gens. C'est ça qui m'a attiré dans l'industrie pharma. Et puis très vite j'ai commencé à travailler dans ce domaine, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le sens que je voulais. La pharma, c'est un métier qui a beaucoup de sens selon moi. On a également un serment, c'est le serment de Galien, hein, qui nous oblige, qui nous pousse entre guillemets à être le dernier rempart avant la délivrance du médicament vers le patient. On a un vrai rôle de santé publique selon moi, mais je ne m'y retrouvais pas dans les différents jobs que j'ai commencé au départ, et j'avais envie d'entreprendre j'avais envie de travailler dans ce domaine, mais de ma façon en fait. Donc très rapidement après mes études, j'ai été salarié un an et demi, et ensuite j'ai commencé à entreprendre pour justement développer des choses. Bon, c'était des compléments alimentaires à la base, mais j'avais envie de le faire à ma façon. Voilà, je voulais pas le faire selon une méthode imposée par une industrie qui à mon sens un petit peu dénaturée.
D'accord. Plus tard, tu décides de créer Innovaya, qui est aussi un projet entrepreneurial. Comment t'es venue l'idée?
Alors, comme tu le sais, j'ai été dans un camp de réfugiés syrien pour une mission humanitaire, parce que je suis à moitié syrien, et donc la cause syrienne m'est très chère. Et ce qui se passe dans ce pays maintenant depuis bientôt 9 ans, c'est un drame et une catastrophe. Il y a plus de la moitié de la population syrienne qui a été déplacée. Il y a eu plus d'un demi-million de morts Il n'y a pas une famille en Syrie qui n'a pas été touchée par ce qui se passe là-bas. Et donc, j'ai voulu moi-même aller aider un petit peu à y apporter ma pierre à l'édifice, entre guillemets. Et très rapidement, en 2012, je suis allé dans un camp de réfugiés syrien. Et en fait, j'y étais avec des médicaments. J'apportais des médicaments dans le camp de réfugiés. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon rôle était complètement inutile, parce qu'il n'avait même pas la base. La base, c'était l'eau et un toit solide, par exemple. Mais ils n'avaient pas d'eau pour boire leurs médicaments. Donc en fait, j'apportais quelque chose qui n'était pas d'une nécessité première. Et c'est là où j'ai pris une conscience qu'en fait, on prenait les choses un petit peu à l'envers. On mettait la charrue avant les bœufs, parce que justement, il n'y avait pas la base. Et la base, c'est les besoins élémentaires de la pyramide de Maslow, hein. C'est pas plus compliqué que ça, c'est l'eau, la nourriture et un toit, la sécurité, entre guillemets, chose qu'ils n'avaient pas. Et ces gens-là, dans ce camp de réfugiés. Et j'ai trouvé ça révoltant, et ça m'a vraiment marqué, cet épisode-là. Et c'est devenu une obsession, en fait, de me dire, mais comment je peux dire que j'ai un rôle pour l'humain de santé, quand encore au 21e siècle, des gens n'ont pas de quoi boire, de quoi se laver, et d'être tout le temps dans l'expectative, d'être dépendant des organisations internationales, des ONG, des associations, alors que pour l'eau, hein, je parle de l'eau là, comment on peut accepter ce genre de choses alors qu'on est au 21e siècle et qu'il y a des solutions, qu'il peut y avoir des solutions pour au moins fournir cette base très rapidement. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de m'investir dans un projet pour l'eau.
D'accord. Je reviens sur ce camp de réfugiés. Je suis très curieuse. En même temps, je pense que j'ai plein de préjugés. J'aimerais savoir à quoi ressemble un camp de réfugiés en Syrie. Est-ce que tu as des images en tête qui pourraient nous permettre de visualiser à quoi ça ressemble, la situation, au-delà justement de ce manque d'eau et de besoins hyper primaires, comme le besoin de toit, enfin de sécurité au sens large? Quoi ça ressemble?
Par définition, un camp de réfugiés, c'est quelque chose qui doit être temporaire. Donc automatiquement, les constructions en dur, on n'en voit pas. C'est surtout des tentes très souvent. Parfois, ça ressemble un petit peu à des constructions de fortune avec des tôles, un petit peu comme dans des bidonvilles. Il y a parfois des constructions en dur, mais quand on commence à être dans des constructions en dur, c'est que c'est pas bon, c'est que ça dure, justement. Il y a plusieurs types de camps, hein. Il y a des camps très petits, hein, comme celui où j'étais, hein. C'était un camp de fortune presque, qui était en fait un poste de frontière qui a été transformé en camp. Et c'était plutôt pour des urgences médicales. Donc il y a des tentes, c'est parfois au milieu de nulle part, parfois au milieu de nulle part. Par exemple, si on prend le camp de Zaatari dans le sud, qui est le plus gros camp au monde aujourd'hui, je crois, qui est dans le sud de la Syrie, à la frontière avec la Jordanie, où il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, 300 000 personnes. Donc c'est la deuxième ville de Jordanie, Zaatari. Si on prend cet exemple, ou si on, il y a des camps où il y a quelques familles, il y a des camps où ça peut monter comme chez Zaatari, l'autre extrême de 300 000 personnes. Donc c'est toute une logistique, hein, qui est mise en place par les ONG, par les associations, par les autorités qui reçoivent le camp. Aujourd'hui, il y a quelques camps en Syrie, effectivement, mais la majorité des camps de réfugiés syriens sont dans les pays limitrophes. Donc moi, c'était à la frontière turque.
D'accord.
Où j'étais. Et c'était en Turquie, c'était pas en Syrie. Donc voilà. Et oui, c'est l'image, les images qu'on a à la télévision sont pas très loin de la réalité en fait. Hein. C'est l'image qu'on se fait, c'est effectivement quelque chose qui est temporaire sous forme de tente, etc. C'est parfois très sale. Il y a énormément de déchets parce qu'il y a pas de gestion, il y a pas trop de gestion des déchets, sauf dans les très grands camps et encore. Donc voilà, il y a des zones pour la distribution de la nourriture, il y a des zones pour la distribution de l'eau, hein. Alors ça dépend, soit il y a une distribution de l'eau, il y a une grosse citerne ou plusieurs grosses citernes, ça dépend de la taille du camp où les gens viennent se servir en eau. Voilà. Où il y a de la distribution sous forme d'eau en bouteille. Voilà le classique. Voilà ce qui se passe en classique.
Un point que je voudrais creuser sur les préjugés qu'on peut avoir, d'ailleurs tu les mentionnes très rapidement dans ta conférence au Diversity Days, quels préjugés tu avais et dont tu t'es défait après cet épisode, pendant cette mission humanitaire.
Alors, moi, j'étais persuadé que j'y allais et que j'allais améliorer les choses. Donc ça, c'était vraiment mon préjugé. Et je pense que la plupart des humanitaires, des gens qui font des missions humanitaires ponctuelles, hein, je dis bien la plupart, parce que je pense qu'il y a des organisations qui sont très conscientes de leur rôle et qui savent très bien le faire depuis des années. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bien faites, qui ont un rôle sur le terrain, qui font plus de mal qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on peut pas s'improviser en fait humanitaire à mon sens. Mais j'y reviendrai peut-être au cours de la discussion. Mais en tout cas, moi j'avais ce préjugé, c'était que en plus du fait que je parle arabe et que j'ai vécu en Syrie, etc., que j'allais tout comprendre et que j'avais tout compris. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. J'avais rien compris. Je ne savais pas du tout tout ce que je viens de t'expliquer. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je ne savais pas du tout quels étaient leurs vrais problèmes. On a tout le temps le préjugé on a tout le temps des préjugés sur leurs besoins. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément ce dont ils ont vraiment besoin, ce qu'on pense, ce qu'on s'imagine, ce qu'on se projette de leurs besoins. Voilà. Et donc ça, c'était un préjugé que j'avais, hein, très honnêtement, que j'ai vite changé, j'ai vite déchanté. C'était la grosse claque, voilà.
D'accord. Tu parles de cette dépendance à l'aide humanitaire. Qui est presque maintenu entre guillemets, donc il y a on les rend très peu autonomes. C'est d'ailleurs ce que tu as enclenché avec Innovaya sur la question de l'eau. C'est cette notion de dépendance, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends derrière et est-ce que ça concerne que l'eau?
Alors la dépendance, non, elle ne concerne pas que l'eau. Il y a aussi l'aide alimentaire, hein, très honnêtement. Il y a quelques camps qui s'organisent pour faire des petits potagers, etc. Mais bon, c'est pas suffisant. Mais effectivement, il y a une dépendance au niveau de l'eau, de la nourriture. Il y a une vraie dépendance également au niveau de la gestion de ce qui entre et de ce qui sort, hein, les déchets, etc. Ce qui fait que parfois c'est très mal organisé et c'est pour ça. Que très souvent il y a des problèmes de déchets, il y a aussi des problèmes de latrines. On parle pas souvent des problématiques de latrines, mais c'est vraiment très très important parce que dans certains camps il y a pas de latrines et donc les gens ils font leurs besoins dans la nature, quoi. voilà, aux alentours. Donc c'est pas terrible. Surtout que là, on est en pleine épidémie de Covid, et qu'on sait également que ben ça peut être transmis via les déjections, hein, via les eaux usées également. Et donc moi je pense que je pense aussi qu'on n'en parle pas assez, mais à mon avis, je ne suis pas retourné pour le moment, mais à mon avis, il doit y avoir de gros problèmes liés au Covid dans les camps en ce moment.
Ça me fait penser, je sais pas si tu as vu sur Netflix, il y a un documentaire un peu shiny sur Bill Gates et ce qu'il a enclenché justement comme projet là-dessus. Tu l'as vu ou pas?
Alors, je ne l'ai pas vu, mais je sais ce que fait Bill Gates et sa fondation sur le terrain. Ils mettent énormément d'argent. À mon sens, ils le mettent pas forcément d'une façon optimale, mais on peut pas leur reprocher qu'ils ne fassent rien.
Ouais. À tes yeux, ça a des conséquences positives. Enfin, ça fait avancer la chose, parce que là, pour le coup, pour les problèmes de latrine, c'est un des sujets, je crois que c'est le premier épisode qu'ils adressent sur ce qu'ils essayent de changer et à quel point ils essayent aussi d'autonomiser différentes populations sur ce sujet pour éviter tout type d'infection et de maladies qui circulent.
C'est toujours très compliqué hein, parce que il faut pas oublier que dans moi j'ai une analyse assez simple du truc hein. Il faut pas oublier que nous on a des préjugés mais également les bénéficiaires ont des préjugés. Donc à partir du moment où on vient avec nos gros sabots et qu'on s'appelle Fondation Bill Gates, ils savent, tout le monde connaît Bill Gates. N'importe qui connaît Bill Gates. Et donc automatiquement, il y a une appréhension à mon sens. Qui est faite aussi de leur côté. Et donc automatiquement, il y a une sensation de bon bah c'est bon, on n'a pas d'effort à faire. Et donc l'autonomisation est tout de suite beaucoup plus complexe lorsqu'on a affaire à une fondation et une grosse machine plutôt que à des ONG ou des associations qui sont plus petites, plus débrouillardes peut-être, et qui demandent aux gens d'être plus actifs.
Ils ont les ressources, mais ils les mettent pas forcément au bon endroit.
C'est ça, oui, ils mettent beaucoup de ressources, mais je pense que il faudrait qu'ils travaillent beaucoup plus avec des locaux hein, ou des représentants ou faire émerger des personnes sur place qui géreraient le projet en leur nom.
C'est d'ailleurs un point qui me permet une parfaite transition sur Innovaya, parce que c'est quelque chose que vous adressez, parce que l'installation de votre machine en kit, enfin entre autres, on va revenir un petit peu sur ce que vous installez, mais l'installation, c'est un peu la dernière étape d'un processus qui requiert de l'adaptation. Et tu m'expliquais que bah, les mœurs et coutumes des populations ciblées sont très différentes d'un pays à un autre, leur relation à l'eau est très différente. Est-ce que tu peux nous raconter ces particularités et pourquoi justement c'est important de co-créer la solution avec la population cible?
Oui, tout à fait. Enfin, il faut savoir que il faut savoir que les bénéficiaires dans le même pays, hein, dans deux régions différentes, vont avoir un rapport à l'eau complètement différent, en fonction de leur ethnie, en fonction de leur religion, en fonction de leur coutume. C'est vraiment un point dont on ne qui est vraiment essentiel dans la prise en charge de l'accès à l'eau potable. Et il faut savoir par exemple que dans certains pays, dans beaucoup de pays, ce sont les femmes et les enfants qui sont en charge de la collecte de l'eau et d'aller chercher l'eau. Donc c'est un rôle très important. Je reprends effectivement un projet où on avait été sollicité en Irak, où du côté de Mossoul, les femmes allaient chercher l'eau. Et une ONG a fait des puits au sein du village, et les puits étaient systématiquement détruits. Et en faisant une enquête, ils se sont rendus compte que c'était les femmes qui détruisaient le puits, parce qu'en fait, ils avaient trop rapproché le puits du village, et c'était leur moment à elles d'aller, de sortir un petit peu de leur quotidien, de discuter, de papoter, de sortir de leur enfer, en fait. Et elles préféraient aller chercher leur eau à leur point de collecte plutôt que d'avoir leur puits près du village. Un autre exemple, c'est en Inde où effectivement il y a des problèmes liés à l'arsenic énormément là-bas, et ça crée des maladies. Et ces maladies-là, en fait, elles sont stigmatisantes. Et si elles, dans ces pays-là, ils ne le voient pas de la même façon que nous, la maladie. Pour eux, c'est un signe de faiblesse. Et donc, du coup, il y a des ONG qui ont fait un super boulot, qui ont mis en place des systèmes de traitement pour justement éviter cette problématique. Par contre, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que le point d'eau était un petit peu éloigné et un petit peu, trop, un peu trop visible. Et donc, du coup, les gens qui allaient chercher cette eau, aller chercher l'eau directement à ce point d'eau de traitement, étaient stigmatisés. Parce que tout simplement, ça voulait dire qu'ils étaient malades. S'ils vont chercher l'eau traitée, c'est qu'ils sont malades.
Donc ils sont pointés du doigt.
Voilà. Et donc, ils n'allaient jamais chercher l'eau là-bas. Donc, ils ont investi des milliers d'euros dans un système très efficace, mais qui n'était pas utilisé parce qu'ils n'ont pas fait tout ce travail amont de quel est le rapport de l'eau, quel est le rapport de ces populations avec l'eau. Est-ce qu'ils ont un rapport social? Parce que souvent, ça a un rapport social. Parfois, il est intéressant aussi de regarder est-ce que ça serait pas intéressant de le mettre près d'une école pour, entre guillemets, aider les enfants à être scolarisés et en même temps jouer leur rôle d'apporteur d'eau, de gestion de l'eau. Voilà, tout ça se travaille, et ça, personne ne peut le savoir, enfin, personne ne peut le savoir comme ça. C'est un travail de terrain, c'est un travail avec les populations locales, c'est un travail avec les ONG locales, et ce n'est pas un travail qui est forcément évident à faire avec des ONG internationales qui ont un standard. On parle tout le temps de standards et de réplication des projets, etc. Dans l'eau, il y a le processus de création du projet qui peut être réplicable, certes, mais pas le projet en tant que tel. Ça peut être sous forme de kiosque à eau, ça peut être sous forme de puits, ça peut être sous forme de récolte et de distribution gratuite, mais ça va dépendre en fait du rapport avec l'eau de la population qui va en être bénéficiaire.
Autant pour ceux qui sont malades et n'ont pas envie de se faire montrer du doigt, que pour ces femmes ou ces enfants qui ont vraiment un rôle social dans la communauté et qu'on va vouloir accueillir, respecter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous vous êtes adapté sur un des sites pour qu'il y ait une adoption de l'installation et que ça puisse en même temps bien respecter ces différents rôles sociaux qui sont sur place?
Oui, tout à fait. Bah, je vais prendre l'exemple qu'on a fait récemment en République démocratique du Congo, à Kalemie. Donc, c'est dans l'est du pays, à l'extrême est, qui est pas loin du Nord Kivu, hein, qui est une zone assez complexe. Et en fait, les gens vont chercher directement l'eau. Les femmes, ce sont les femmes de la population de Calémi qui vont chercher l'eau directement dans le lac Tanganyika. C'est un énorme lac, je crois que c'est le troisième lac d'Afrique d'eau douce. C'est une réserve d'eau, mais effectivement, cette eau n'était pas potable. Et il y avait pas mal de maladies hydriques justement dans la zone. Et puis, nous, lorsqu'on a fait notre travail, donc on a fait une mission exploratoire, on a vu toute la partie technique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est techniquement faisable. Et ensuite, on a mis en place des échanges très forts avec une association locale, qui s'appelle Mama Ouzina. On leur a posé des questions pour savoir comment ça se passait au niveau de l'eau, quels étaient leurs quotidiens en fait avec l'eau. Et on s'est rendu compte que c'était les femmes hein, qui allaient chercher cette eau. C'est comme ça qu'on a découvert tout ça. Et en fait, en montant le projet, on a dit « Ok, ben, il faut donner un rôle à ces femmes. » Et donc, on a créé un comité de gestion de l'eau que de femmes. Ces femmes-là qui étaient en charge de la récolte de l'eau, c'est elles qui sont en charge maintenant des systèmes de traitement et qui vont distribuer l'eau aux différentes personnes qui vont venir chercher l'eau. Et donc, on leur a créé un job qui leur permet aussi d'avoir un rôle plus fort dans leur famille. C'est aussi d'apporter de l'argent à la maison. Donc voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait également dans cette zone-là, il fallait donner une valeur à l'eau pour bien faire comprendre que elle leur permettait d'avoir une traçabilité et d'être sûr que l'eau elle est propre. Ça, c'est un exemple hein, de ce qu'on a pu faire.
D'accord. Il y avait un autre exemple aussi que tu m'avais donné quand on préparait l'interview, qui était au Burkina Faso. Tu m'expliquais qu'ils ne voulaient pas boire l'eau parce qu'elle avait plus de goût.
Exactement.
Et pour eux, c'était plutôt effrayant en fait que l'eau n'ait pas de goût, alors que pour nous,
exactement.
Bah, justement, l'eau ne doit pas avoir de goût. C'est pour eux, c'est quelque chose qui justement est pas potable ou c'est pas bon ou c'est juste comment t'expliques cette partie-là?
Bah, pour eux, ça n'a plus de goût, donc automatiquement, c'est plus de l'eau.
Ah oui.
C'est comme si aujourd'hui on te donnait de l'eau avec du goût et on te disait bah maintenant c'est ton eau. C'est difficile. C'est exactement le même processus. Et eux, ils ont été habitués à un goût. Et ce goût-là, en fait, il faut le garder, il faut le prendre en compte pour eux, c'est important. Donc, c'est des tests aussi. Parfois, c'est pas du premier coup. Hein. Donc, un projet, c'est long à mettre en place.
Ça prend combien de temps?
Dans le meilleur des cas, c'est minimum 6 mois.
D'accord.
Mais ça peut s'étaler sur 2-3 ans.
D'accord.
Pour la mise en place. Mais ensuite, il y a toujours le suivi, qui est très important. Le suivi est extrêmement important parce que il faut pouvoir être en capacité de se dire c'est bon, on a vraiment fait notre job, ou ils sont complètement autonomes ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les autonomiser?
D'accord. On va rentrer un peu dans l'installation en elle-même, parce que si j'ai bien compris, c'est une machine qui est en kit que vous allez mettre dans les mains de la population cible pour essayer un petit peu de désacraliser son utilisation. Et il y a une autre partie sur mesure. Comment ça fonctionne concrètement? Parce que je sais qu'il n'y a pas de produits toxiques, il n'y a pas particulièrement besoin de maintenance non plus. Comment ça fonctionne?
Alors, on a deux parties hein, sur les systèmes. On a une partie qu'on appelle la clarification des infections. On va enlever tout ce qui est en suspension dans l'eau, d'accord? Et désinfection, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est bactéries, virus, spores, tout ce qui peut être nocif en termes de micro-organismes. Et c'est un processus purement mécanique. On fait de l'ultra-filtration, donc on filtre jusqu'à 10 nanomètres. Mais voilà, ça fait pas tout. C'est-à-dire que si on a des molécules dissoutes dans l'eau, ça peut être de l'arsenic, hein, je donnais l'exemple de l'arsenic tout à l'heure, Ça peut être trop de fer, ça peut être trop de manganèse, ça peut être différents éléments potentiellement toxiques. Et à ce moment-là, c'est là où intervient la partie sur mesure, c'est-à-dire qu'on va étudier sur le terrain, sur la partie technique, on va étudier ce qu'il y a comme qualité d'eau en termes de minéraux, en termes de polluants. Et on va rajouter ce qu'on appelle des médias filtrants ou d'autres modules de filtration qui vont permettre d'enlever spécifiquement ces polluants-là et qui vont agir un petit peu comme des aimants. Donc, ils vont aimanter la molécule qu'on veut pas garder dans l'eau. Et voilà. Et donc, on a un processus qui est purement mécanique avec un échange entre un média filtrant et l'eau par la suite pour enlever les micropolluants qu'on a dans l'eau. Ensuite, la machine, elle a un ordinateur de bord très simple qui va lui dire quand est-ce qu'elle va devoir produire l'eau, quand est-ce qu'elle va devoir se nettoyer, quand est-ce qu'elle va devoir se maintenir. Techniquement, la machine, il y a un bouton on-off et ensuite elle va tourner toute seule. Elle va savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut se nettoyer, etc. en fonction de la qualité de l'eau, parce qu'on a différents capteurs sur la machine qui vont lui transmettre des informations. Voilà.
Et donc, elle n'a pas besoin de maintenance.
Voilà, elle n'a pas besoin de maintenance. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est une machine qui n'a pas besoin de maintenance pendant plus de 10 ans.
Est-ce qu'il y a des limites à cette installation?
Il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites parce que ça va dépendre en fait du terrain. Ça va dépendre de la source. Est-ce que c'est une source tarissable ou pas? Ça, c'est vraiment très important. Il faut qu'on puisse étudier ça. Il y a toujours des limites, hein, à un projet. Est-ce qu'on va pouvoir avoir les bénéficiaires? Est-ce que les bénéficiaires sont prêts à être autonomisés? Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important.
Pourquoi il ne le serait pas?
Parce que tout simplement, ils ont été habitués à être assistés. Il y en a beaucoup, hein. Et donc, du coup, c'est complexe, c'est compliqué, c'est. Et il y a tout un travail, de leur rendre un petit peu ce pouvoir de reprendre leur vie en main, en fait. C'est très compliqué.
Et avec le pouvoir, vient la responsabilité aussi, d'une certaine manière, quoi.
Exactement. Nous, aujourd'hui, on travaille aux Philippines avec Gawad Kalinga. Pour moi, c'est une ONG qui a tout compris. Gawad Kalinga, c'est la plus grosse ONG des Philippines. Ils ont tout compris parce que ils offrent une partie de la pyramide de Maslow. Donc, ils offrent un toit à manger et à boire. Et ensuite, quant à ça, après, il faut que tu trouves ton job, il faut que tu aides la communauté, il faut que tu construises de nouvelles maisons pour la communauté, pour les gens qui en ont besoin, etc. Donc, ils les autonomisent au max, mais c'est un contrat avec les bénéficiaires. Et si les bénéficiaires ne jouent pas le jeu, ils sont exclus. On te donne les armes pour être en capacité de sortir de cette d'une crise, à toi aussi de réellement en sortir.
Une autre donnée que j'ai trouvée sur vos installations, c'est qu'elles sont idéales pour des communautés qui varient entre 500 et 20 000 personnes. Pourquoi ce chiffre?
Le chiffre de 500 ou le chiffre de 20 000?
Ben, c'est de savoir justement qu'est-ce qui fait que cette installation donc j'imagine moins de 500, c'est peut-être pas intéressant de faire toute cette installation. Pourquoi c'est limité à 20 000? Enfin, en gros, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux limites en termes d'effectifs?
La limite supérieure, elle est facile à dire, parce qu'au-delà de 20 000, ça devient des villes, on va dire ça comme ça. Et
D'accord.
c'est là où il y a moins de problèmes, parce que dans les villes, il y a un accès à l'eau potentiellement pas forcément bon, hein, parce que on peut prendre la ville de Kinshasa au Congo, qui est une capitale de presque 20 millions d'habitants, et l'accès à l'eau est vraiment l'accès à l'eau potable est vraiment catastrophique. Mais on va dire qu'il y a déjà des acteurs qui sont sur place, et ce sont des communautés visibles, ce sont des villes visibles. En dessous de 20 000 habitants, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui aident parce que ce sont des communautés qui sont plus petites et qui sont parfois les oubliées un petit peu de l'accès à l'eau. Il faut savoir que sur la problématique de l'eau, aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à une eau saine dans le monde.
2 milliards, tu dis?
2 milliards, ouais, 2 milliards. Sur les 2 milliards, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 300 000 communautés aujourd'hui, selon nos estimations, qui sont des communautés moins de 20 000 habitants. Voilà. Et ce sont elles qui sont particulièrement touchées parce que c'est pas assez, elles sont pas assez grandes pour attirer des projets structurants de centrales de traitement avec réseau d'eau. Et elles sont pas forcément assez petites pour pouvoir avoir une action pas trop chère. Je sais pas si c'est clair pour toi.
Qu'est-ce que tu entends par une action pas trop chère?
Ben, tu vois, les villages de 100, 200 habitants, c'est plus facile à gérer, c'est plus facile à mettre en place que des villages de plus de 500 habitants. C'est des installations qui sont un peu plus conséquentes, mais c'est des installations qui sont en entre-deux, entre, on va dire, entre l'industriel et l'artisanal.
D'accord.
Donc, il n'y a pas vraiment d'offres, on va dire, pour ces communautés-là. Et c'est celles qui sont un peu les oubliées, les moins visibles, parce que c'est compliqué. Voilà, simplement.
D'accord. Pour comprendre un petit peu comment vous, vous vivez, et ça touche au dernier point, là, tu parlais des industriels, comment est-ce que vous monétisez l'eau et comment est-ce que vous réglez aussi le problème à la source?
Alors, pour monétiser l'eau, c'est simple, ça dépend des projets, encore une fois, mais on peut faire des systèmes, comme les machines, elles sont automatisées et qu'elles ont un système de contrôle, hein, on va dire, on peut digitaliser le paiement. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui va gérer le point d'eau et qui va récolter l'argent. Mais ce n'est pas nous qui récoltons cet argent. Nous, on va travailler avec les ONG, on va travailler avec les autorités locales, et ce sont eux nos clients. Nous, on leur vend les installations et notre travail. Ensuite, c'est eux
D'accord.
qui gèrent le projet et qui monétisent qui monétisent l'eau avec notre analyse et avec ben, notre travail, en leur disant, voilà, on pense que le prix sera acceptable pour X centimes d'euros ou X centimes de dollars pour les 20 litres. Voilà. Qu'on parle de pour l'OMS, pour l'Organisation mondiale de la santé, on a un accès à l'eau potable lorsqu'on a au minimum 20 litres d'eau potable par jour et par personne. Voilà.
D'accord.
Donc souvent, l'eau est vendue par bidon de 10 à 20 litres.
D'accord. Et vous avez aussi une action auprès des industriels.
Voilà, et on a une action auprès des industriels parce que sur le terrain, on s'est rendu compte que très souvent, on réglait des problèmes d'industriels. Quand on traitait l'eau, je reprends l'exemple au Laos où on avait trouvé de l'arsenic dans l'eau, et en fait, l'arsenic venait des plantations de bananes et de riz qu'il y avait aux alentours et qui polluaient les nappes phréatiques et donc qui polluaient l'eau qui alimentait les villages. Et en fait, on s'est rendu compte que, ok, on traitait l'eau, on traitait l'arsenic, mais au final, on mettait une sorte de pansement, en fait. On traitait ça, mais on ne traitait pas vraiment la source du problème, qui est l'utilisation de pesticides qui est à base d'arsenic. Donc, on a un petit peu, on s'est un petit peu creusé la tête en se disant, mais comment on peut faire pour justement régler ce problème directement à la source. Et c'est là où on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer aux industriels de régler leurs problématiques et de leur fournir des solutions directement à eux pour limiter en fait la pollution de la source. Et donc avoir une action en amont. Et donc c'est là où on a commencé à proposer notre solution à des industries et à des industriels, afin de leur montrer qu'on était capable techniquement de les aider sur leur problématique de rejet des eaux, et de leur proposer des solutions pour qu'ils aient un impact positif sur l'environnement.
Et là, en l'occurrence, au Laos, comment est-ce que vous avez réussi à adresser le problème ?
Alors pour le coup, au Laos, c'était, on s'est associé à une entreprise qui fait du riz bio, et on a essayé de. Alors le problème n'est pas réglé au Laos. Hein. Je préfère le dire tout de suite parce que c'est vraiment du travail de longue haleine. C'est difficile de faire comprendre aux populations l'intérêt de passer à une autre technique de traitement, à une autre technique de culture. C'est très compliqué hein, de le faire. Mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de les sensibiliser en fait à d'autres techniques plus vertueuses d'agriculture. Donc ça, c'était une chose qu'on a pu faire. Et puis bon, bah après, on a fait du traitement dans les, on a proposé des traitements dans les dispensaires pour au moins avoir de l'eau très propre dans les dispensaires. Voilà. Mais là au Laos, pour le coup, on n'a pas pu vraiment avoir une action. Ça a été plutôt le déclic. Hein. C'est ce qui nous a inspiré en fait. De dire on peut.
Ouais. Donc vous avez commencé à adresser auprès des industriels,
voilà,
une réflexion pour savoir se dire ok, sur un site je découvre quelle est la source du problème qui est un toxiphilo, et derrière je vais tenter d'adresser aussi la résolution de ce problème auprès des industriels, et là c'est pas 6 mois qu'il faut, mais
oui,
mais bien
plusieurs
plus.
C'est aussi des réglementations. Nous, on essaye aussi de faire un gros travail de lobbying auprès. Je sais que ce mot-là paraît un peu souvent péjoratif, mais il y a un vrai travail de lobbying auprès des autorités, parce que les industriels, et on le voit partout, hein, même en France, les industriels passent à l'acte au moment où ils sont contraints de changer leur méthode. Parce que c'est des investissements qui sont potentiellement lourds, difficiles, complexes à gérer, et effectivement, il n'y a pas forcément de logique environnementale poussée. On va dire ça comme ça. Il y a une logique environnementale, bien sûr, parce que faut pas croire, hein, les industriels, ça reste des humains et ils sont touchés tout autant que nous par la problématique. De l'environnement, mais elle n'est pas forcément évidente s'il n'y a pas de contraintes réglementaires. Donc aujourd'hui, il y a les accords autour de l'eau européens en Europe en tout cas, qui font beaucoup effet, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui se mettent aux normes. Et puis également, il y a des valeurs limites d'émissions, ce qu'on appelle les valeurs limites d'émissions, donc ce que tu peux rejeter, qui ont encore baissé au 1er janvier 2020. Donc les industriels en Europe font beaucoup d'efforts, mais c'est pas forcément le cas au niveau mondial. Et en tout cas, dans les pays où il y a une réglementation, elle n'est pas forcément appliquée. Donc c'est vraiment très très compliqué à mettre en place. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de leur dire, bon bah écoutez, vous pouvez aussi faire un effort, parce que potentiellement les gens qui vont être impactés par votre pollution, ce sont potentiellement aussi des futurs employés. Qui vont vous permettre d'avoir un impact positif sur les villages de vos employés. Donc on essaye de travailler aussi avec la RSE, quoi, avec la responsabilité sociale de l'entreprise.
Ouais, et recréer du lien entre en fait les populations touchées et
exactement
ce que l'entreprise propose.
Mais encore une fois, c'est un projet hyper, enfin c'est hyper complexe, c'est hyper fastidieux, c'est très long, mais c'est passionnant.
C'est ouais, ça avance petit à petit. Chaque brique ajoutée compte dans la transformation.
Exactement.
Ces problématiques liées à l'eau qui sont dans plein de pays lointains. Nous semble bien lointain dans nos problématiques. Et je le disais dans l'intro, on a quand même notre chaise d'eau qui est potable. Moi, je sais, à chaque fois que je tire la chaise, ça me... Il y a un truc qui se passe. Mais du coup, en France, vous avez aussi des actions. Pourquoi? Comment ça se fait? Qui n'a pas accès à l'eau en France? Et qu'est-ce que tu peux nous mettre en lumière sur la situation en France?
Nous, au départ, on ne pensait pas qu'on allait travailler en France, hein, je t'avoue. On pensait vraiment qu'on allait vraiment travailler sur les pays en voie de développement, les zones de guerre, les zones isolées, etc. Et puis, on a été contacté par une association parisienne qui, elle, travaille sur la résorption des bidonvilles. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près... Et il y a à peu près 50 000 personnes en région parisienne qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas accès à une eau potable. Alors ça, c'est des personnes qui vivent dans des bidonvilles. Il y a aussi des réfugiés. Voilà, c'est des gens qui vivent dans des squats également et qui n'ont pas un accès à une eau sécure. Voilà. Donc c'est une réalité en France. Puis après, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus, on est sollicité par quelques acteurs de l'eau parce que ils se rendent compte que il y a de plus en plus d'épisodes de sécheresse en France et que ils sont obligés maintenant de traiter l'eau sur des sources qui initialement ils n'auraient pas pensé qu'ils auraient pu les exploiter en fait. Donc, du coup, ils font appel à nous parce que notre solution, elle s'adapte également à des plus petits volumes.
Sachant qu'en France, on a quand même une ressource, enfin la ressource de l'eau qui est en grande abondance. Ça paraît presque insensé.
Oui, effectivement, il y a de la ressource en France encore. Merci, mais effectivement, il y a une raréfaction de la ressource. Ça, c'est sûr. Par exemple, j'étais il y a quelques jours, on est aussi sur un projet de réhabilitation d'un château de la Loire avec un système de traitement de l'eau de pour ce château parce qu'il a comme objectif d'être autonome en eau, en électricité, etc. Et donc, ils ont un étang dans le domaine et l'étang est au plus bas niveau au mois de mai et ce sont les niveaux qu'ils ont d'habitude au mois d'août. Donc ça veut bien dire qu'il y a effectivement une raréfaction de la ressource et ça va s'empirer parce que le réchauffement climatique, parce que on va être touché, oui, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'il y a une baisse, des valeurs limites d'émissions pour les industriels en France. C'est pour ça qu'il y a des baisses dans les autorisations de prélèvement dans la ressource, dans les différents bassins versants en France. Donc c'est une problématique vraiment importante. Et on essaye en France aujourd'hui de nous diriger vers ce qu'on appelle le reuse, ou la réutilisation des eaux usées, où maintenant on commence à autoriser l'utilisation des eaux de stations d'épuration pour l'irrigation. Mais on n'en est qu'au commencement. Chose qui est, par exemple, si on va à Singapour, ils sont déjà en train d'embouteiller des eaux de stations d'épuration. Qu'ils arrivent à traiter et qu'ils en font de l'eau potable. Ça, en France, c'est pas encore le cas, pas parce que techniquement...
Et elles correspondent quand même à nos normes pour que l'eau soit potable.
Oui, tout à fait. Enfin, ça correspond aux normes d'eau potable, puisque techniquement, on y arrive, mais ça coûte encore très cher à mettre en place. Donc potentiellement, il y a aussi un problème de Je préfère quand même exploiter des ressources ici plutôt que de mettre en place des traitements trop chers. Et puis, l'Agence régionale de santé, par principe de précaution, ce que je comprends également, ne veut pas avoir affaire à potentiellement des problématiques sanitaires graves si on ne maîtrise pas à 100% la technique. Donc ça, je l'entends. Mais effectivement, on n'est pas vraiment en avance sur la réutilisation des eaux usées. Ça, c'est sûr.
Un autre projet que je trouvais très intéressant, c'est que tu vas faire partie, enfin Inouvaya va faire partie de l'expédition Plastique Odyssée, qui est donc un bateau avec une technologie éco-efficient qui va faire le tour du monde pour présenter différentes technologies et qui va utiliser le plastique des mers comme carburant, c'est bien ça?
C'est ça.
Ça paraît absolument incroyable comme projet, et vous, vous en faites partie. Comment ça se fait? Pourquoi?
Eh ben, ça a été une rencontre avec Simon Bernard, qui est le PDG de Plastic Odyssey, qui est un jeune marin hyper inspirant. Et Simon Bernard, lui, il a ce projet un petit peu fou, hein, de faire le tour du monde. Et d'embarquer des technologies à bord, que ce soit en open source ou pas, qui ont du sens et des technologies qui sont capables de répondre aux défis du futur. Et en discutant avec lui, il m'a dit, ben, moi j'ai besoin de vous à bord sur la partie eau et traitement de l'eau parce que ben, nous on va s'arrêter dans plus de 30 destinations et toutes ces destinations sont dans la fameuse diagonale de la soif.
Tu peux nous dire ce que c'est la diagonale de la soif?
La diagonale de la soif, ce sont les pays qui commencent en Asie du Sud-Est, hein, donc ce qui est Indonésie, Malaisie, etc., et qui se terminent en Turquie. Donc ça fait une diagonale quand tu regardes sur une carte. Et ce sont bah, la majorité des pays qui sont en stress hydrique. Donc en stress hydrique, ça veut dire que on n'a pas assez de ressources pour les besoins normaux d'une population. Donc on est à moins de 1000 mètres cubes par an et par personne quand on est en stress hydrique. En France, on est au-delà des 3000, donc on n'est pas en stress hydrique, hein, encore. Mais dans ces pays-là, c'est catastrophique et justement, il doit y avoir une gestion de l'eau beaucoup plus importante et ce sont des pays qui sont... Qui ont des problématiques à gérer, notamment de barrages, notamment de gestion de la ressource, qui peut entraîner des conflits.
Donc, cette expédition va faire plusieurs stops pour justement présenter ces différentes technologies, dont la tienne. Elle les présente à qui?
Aux autorités locales, qui vont les accueillir, à différentes personnes des ambassades de France, pour essayer de montrer ce qui est possible de faire avec des technologies éco-efficientes. Mais nous, on a aussi un rôle à bord du bateau, on a un rôle important, c'est celui du traitement de l'eau à bord du bateau. Donc on va potabiliser l'eau du bateau pour éviter en fait d'embarquer bah, des bouteilles d'eau potable, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui.
D'accord.
Et donc on veut aussi faire un modèle pour les armateurs, en leur disant, bah, c'est pas la peine d'embarquer à bord des milliers de bouteilles plastiques pour les croisières ou pour des expéditions.
Alors qu'on a l'eau tout autour qu'on peut transformer.
Alors, c'est pas forcément le cas parce qu'on désalinise pas, mais en tout cas, les eaux qui sont, tous les bateaux ont des cales à eau et ils remplissent leurs cales à eau avec les eaux dans les différents ports, mais c'est des eaux douces. Et donc, pourquoi pas traiter cette eau qu'on utilise normalement pour se doucher ou pour nettoyer ou etc. Parce qu'ils n'utilisent pas de l'eau salée, bien évidemment, plutôt que bah, de prendre cette eau plus des bouteilles d'eau. Voilà.
Et désaliniser l'eau, c'est pas une option?
C'est une option, mais ce n'est pas forcément la plus évidente parce que ça coûte très cher la désalinisation et c'est potentiellement beaucoup plus polluant, la désalinisation.
D'accord. Je vais devoir passer à la suite, même si ce
Pas de
sujet
souci.
m'intéresse quand même. Non, attends, vas-y, pourquoi c'est polluant?
Alors, la désalinisation, faut savoir que ça se fait normalement par osmose inverse. Donc, l'osmose inverse, c'est une technique qui utilise beaucoup de pression. Donc, il y a beaucoup d'énergie à mettre parce que c'est des pompes qui sont très volumineuses, enfin, volumineuses, qui utilisent beaucoup d'énergie pour désaliniser. Et ensuite, il faut reminéraliser l'eau parce que l'osmose inverse enlève tout ce qu'il y a comme minéraux dans l'eau. Ça laisse de l'eau, de l'H2O, quoi. C'est tout. Donc, il y a du consommable derrière. C'est pas forcément, c'est une technique qui est très bien dans certains cas, mais vu que là, on a déjà prévu d'avoir de l'eau à bord douce, quel est l'intérêt de désaliniser? Voilà, c'est pas vraiment ça. Et ensuite, c'est pas vraiment utile d'avoir un système de désalinisation. Et ensuite, il faut savoir que lorsqu'on désalinise, on concentre. Donc, il y a de l'eau qui va être potable, on va dire potable, et c'est une eau désalinisée. Mais après, on a ce qu'on appelle le concentrat. Et ce concentrat, aujourd'hui, est un peu controversé parce qu'on n'arrive pas à le traiter vraiment. Et en fait, d'habitude, on le rejette directement dans la nature. Alors, tu me diras, oui, mais on fait que concentrer, on rajoute pas de polluants, etc. Mais en fait, ça a des effets catastrophiques sur les écosystèmes. D'ailleurs, dans les pays qui utilisent les méthodes de désalinisation d'eau de mer, ils ont des énormes problèmes de biodiversité sur leurs côtes. Parce qu'en fait, il y a des phénomènes de concentration. Donc, le sel est beaucoup plus important et les minéraux sont beaucoup plus importants à un endroit. Et ce ne sont pas des milieux dans lesquels peuvent se développer les poissons, les coraux, etc. C'est une technique très intéressante, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie.
D'où la stratégie plutôt d'assainir l'eau douce qui est sur le bateau.
Exactement.
Plutôt que cette option-là.
Exactement.
On va dézoomer un petit peu et on va parler d'une phrase que vous mettez en avant sur votre site web et dont j'aimerais faire le lien avec toi. Vous dites que vous voulez donner du sens à votre travail, avoir une conscience éthique, et que ça, c'est les deux mantras qui ont influencé la stratégie de votre entreprise. Ce que j'aimerais creuser avec toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire donner du sens à votre travail ? Qu'est-ce que vous entendez par conscience éthique ? Et ce que j'aimerais creuser juste derrière, c'est en quoi est-ce que c'est en accord avec tes valeurs, ce que tu fais aujourd'hui ?
Tout un programme.
Ouais.
Nous, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, on pense réellement, dans toute notre équipe, on pense réellement que on ne peut pas faire du business pour du business aujourd'hui. Et ce sujet de l'eau me touche personnellement et j'ai voulu en faire mon métier. Quelque chose qui est très très important pour moi parce que je me suis rendu compte de l'impact qu'on pouvait avoir. Et effectivement, j'ai eu des messages lorsqu'on a fait nos premières installations en Roumanie de bénéficiaires qui m'envoyaient des messages de remerciement et qui me disaient « ça a changé ma vie, vous avez changé ma vie ». Et ça, c'est un moteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais lors de la première installation qu'on a faite en Roumanie, il y avait des enfants qui étaient là. Et lorsqu'ils ont vu l'eau limpide sortir de notre machine, ils étaient ébahis, quoi. Et ça m'a donné un coup de boost incroyable. Je me suis dit, voilà pourquoi je fais ça, en fait. C'est vraiment incroyable de le vivre.
Faire vivre cette étincelle dans l'œil de l'enfant autant que des populations là-haut.
Ah, complètement. Et tu vois, la première mission que j'avais fait avec l'un de mes collaborateurs au Laos, quand on est arrivé là-bas, les enfants étaient tous souriants, c'était incroyable. Et ils avaient rien, ils avaient même pas d'habits, ils avaient rien sur eux. Et ça a été, moi, c'était pas la première fois que je faisais une mission comme ça. Et je commençais un petit peu à être habitué, mais ça te prend quand même les tripes à chaque fois. Mais mon collaborateur, le soir, il a craqué, il a chialé toute la nuit. Hein. Il en pouvait plus. Et quand on a fait nos premières installations, après, ça a été un soulagement, en fait. Et c'est ça qui nous booste, en fait. On se dit, il faut qu'on se dépasse, il faut qu'on fasse ce travail pour ces gens-là. Et c'est quelque chose qui nous booste, quoi, à chaque fois. Et qui nous oblige, pas qui nous oblige, mais qui nous. On se dit, mais on ne peut pas faire autrement que faire les choses bien. Et de façon éthique. Sans avoir à les. Comment dire? Sans avoir à faire un travail bâclé, par exemple, sans être. Parce qu'on vit très bien. On peut vivre très bien avec du bon travail. Hein.
Et c'est quoi un travail éthique pour toi?
C'est quoi un travail éthique pour moi? Un travail éthique, c'est remettre au centre du projet l'humain. C'est ça un travail éthique pour moi.
Que tout soit aligné sur l'humain.
Tout soit aligné sur l'humain. Oui, j'entends qu'il faut mettre en place un système économique. Oui, j'entends ça. Ouais, mais c'est pas ça qui fait tourner la Terre. La Terre, elle s'arrêtera pas de tourner s'il n'y a plus d'argent. La Terre, elle s'arrêtera pas de tourner si on est drivé par quelque chose qui est comment dire, qui n'est pas en respect avec la nature. Il faut prendre en considération tout ça. Il faut prendre l'humain, il faut prendre la nature, il faut prendre l'environnement. C'est ça un travail éthique.
Ouais, je dirais même plus, la planète ne s'arrêtera pas de tourner quand nous, on ne pourra plus vivre dessus. Elle continuera, par contre, nous,
C'est
on
ça.
survivra pas dessus, quoi.
C'est ça.
Mais la Terre, elle, sera toujours bien là. C'est
Exactement.
juste nous, en fait. C'est la petite nuance dont il faut prendre conscience. J'aimerais enchaîner sur quelque chose qui est un petit peu en lien sur ce qu'on vient d'aborder, mais te demander pourquoi tu fais ce que tu fais.
Je le fais parce que, alors ça peut paraître un peu bizarre. Il y a effectivement un côté potentiellement purement égoïste. Hein. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien effectivement et ça me donne un sens à ce que je fais. Oui. Ça c'est une première chose. Je le fais aussi parce que j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi. Et je le fais pour aussi mes enfants et pour les enfants du futur parce que on n'a pas le droit aujourd'hui de leur laisser une terre comme ça, quoi.
Qu'est-ce que tu veux vraiment?
Qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai une profonde foi en l'humanité. Et je pense que l'humanité a besoin d'avoir foi en elle. Et ce que je veux, c'est que les gens reprennent confiance en l'humain. Et en sa capacité, de s'adapter à son monde.
Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux?
L'eau. Qui est sacré, c'est le respect de son environnement. C'est vraiment sacré.
Qu'est-ce qui te permet de rester connecté à toi?
J'ai découvert la méditation. C'est quelque
Ah.
chose d'incroyable.
Que tu fais avec des méditations guidées ou une application par exemple ou tout seul?
J'ai commencé par des applications guidées au départ et j'ai arrêté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire et que ben c'est dans ma nature. J'aime bien faire les choses tout seul. Et donc du coup, j'ai commencé à faire de la méditation avec quelques tips and tricks, on va dire de la méditation guidée. Mais je trouve ça hyper fort parce que ça me permet de revivre l'instant présent.
Un conseil que tu aimerais donner à Khaled Adou.
Crois en toi.
Est-ce que tu as une phrase inspirante, un motto, un mantra, quelque chose qui t'aide à te lever le matin?
Écoute, j'avais envie de te dire étancher la soif dans le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est peut-être un petit peu bateau, Mais c'est vraiment ça qui m'anime tous les matins et qui me donne envie de me lever réellement.
Et as-tu une personne inspirante ou un mentor?
Alors, moi j'ai deux personnes inspirantes. J'en ai une qui est encore en vie et une qui n'est plus en vie. Mais la première personne inspirante, c'est un entrepreneur roumain qui s'appelle Andrei Pitiș. Il a créé, bon, pour la petite parenthèse, il a créé une montre qui a une montre connectée qui a une autonomie de plus de 30 jours. Et il a changé complètement l'industrie de la montre connectée grâce à son innovation. Il a été racheté par Fitbit. Bon, bref, c'est pas ça, mais c'est une personne qui a vu qui a pas, comment dire, qui a pas réglé un problème immense dans le monde, etc. Mais qui a apporté sa petite contribution en réduisant en fait cette obsolescence de la montre connectée. Et je trouvais ça génial et c'est quelqu'un qui m'a coaché pas mal sur la partie business et c'est quelqu'un d'hyper inspirant, d'hyper simple et qui est en accord avec ses principes. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et sinon, la deuxième personne inspirante, c'est Spinoza. Donc, vraiment, il est mort il y a très longtemps. Mais pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est mort pour ses valeurs. J'ai envie de dire ça comme ça.
Ah, raconte-nous pourquoi.
C'est quelqu'un qui a qui Spinoza, il est vraiment allé au bout des choses. Pour lui, pour Spinoza, pour lui, tout a une raison. Et c'est ce que je me dis également, parce que sinon, ça me ferait perdre foi en l'humanité, très honnêtement. Donc, tout a une raison, tout a une explication. Et tout a une explication rationnelle. Et que si on arrive à dénouer cette explication, rationnelle, on peut, potentiellement améliorer les choses, voire les arranger. Et c'est quelqu'un qui a refusé, qui a mené une vie d'ascète, hein. Il a pourtant été, on lui a proposé de l'argent, on lui a proposé énormément de choses, mais il a toujours vécu, on va dire, pour ses convictions, parce qu'il ne voulait pas avoir de tentations externes, entre guillemets, pour son travail, pour ce qu'il avait comme théorie, etc. Il a refusé des choses et c'est quelqu'un qui a été c'est un écrivain, un philosophe dans lequel je n'irai pas jusqu'à ce qu'il je ne ferai pas ce qu'il a fait hein. Mais je trouve qu'il est allé au bout des choses. Il n'a pas vécu une vie de souffrance, il a vécu une vie comme il le voulait. Et moi c'est Pour moi, c'est ça, les gens inspirants, c'est pas des gens qui jouent un rôle, c'est des gens qui sont eux-mêmes.
Est-ce que tu as peut-être un conseil pour aider quelqu'un qui cherche à s'aligner, à rester lui-même justement, et aligner ce qu'il fait et ce qu'il est?
Eh ben, qu'il fasse un ikigai.
Qu'il fasse un ikigai, ouais.
Tu
On a
connais?
déjà un peu vu l'ikigai. Ouais. On l'a abordé. Waouh, je ne sais plus dans quel épisode. Mais ouais, philosophie japonaise.
Ah ouais, c'est génial. Moi ça a changé vraiment les choses parce que j'ai fait ça. Nous, on a fait le parcours Ticket for Change. Je sais pas si tu connais. Donc on a fait Ticket for Change. On était dans le parcours entrepreneur 2018 avec ma cofondatrice Justine et on a fait les Ikigai. Et franchement, ça te permet de te connaître mais d'une façon incroyable. Et nous aujourd'hui on fait ça systématiquement avec nos nouveaux collaborateurs. On leur propose de faire un Ikigai pour qu'ils sachent est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire.
Comment tu t'y prends pour leur proposer ça à l'étape de recrutement?
Bon, on leur propose, on leur dit voilà, nous on a fait un petit questionnaire et on leur demande de le remplir et comme ça ils font leur propre ikigai.
Génial. Est-ce que tu pourrais le partager, enfin peut-être une partie, peut-être pas tout, mais pour les auditeurs?
Bah, on leur demande, par exemple, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui ne leur plaît pas, dans quel endroit ils se sentent bien, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Enfin, c'est des petites questions toutes simples qui permettent en fait derrière d'établir ton ikigai, quoi. Voilà.
D'accord. Génial. On passe à deux vérités et un mensonge te concernant. Ne nous dis pas lequel est lequel.
J'écoute une émission de résolution de meurtres et d'histoires extraordinaires non résolues tous les matins au réveil.
Ok.
J'ai rencontré Clara Morgan dans les toilettes d'un train et je sais qu'elle est claustrophobe. Je parle
Ok.
cinq langues couramment.
Ok, je suis hyper curieuse, sachant que la première, tu serais pas la première personne que je connais qui est un peu fascinée par les histoires de meurtre et les serial killers, les tueurs en série. Enfin, il y a une partie de la population dont on parle trop peu, je pense, qui est passionnée par ces histoires.
Mais tu sais pourquoi je suis passionné? Enfin, merde.
Ah merde,
Non,
eh ben
bah,
voilà.
pardon, ça tu pourras le
On
couper.
en a une au moins.
Ça tu pourras le couper. Mais non, mais en fait, c'est marrant parce que j'adore écouter ça parce que je suis toujours en train de me dire, un peu comme Spinoza, tu vois, pourquoi ils ont fait ça, ces mecs? Tu vois?
Ouais,
Pourquoi ces gens ont fait
qu'est-ce
ça?
qui s'est passé dans
Qu'est-ce
leur
qui s'est
tête?
passé dans leur tête? Quel a
Ouais.
été le déclencheur? Quelle a été la suite logique dans leur tête, tu vois? Et c'est un exercice incroyable parce que qui me plaît énormément parce qu'en fait si je me dis mais ouais mais en fait non c'est pas j'entends tu vois j'entends
Ouais.
et ça me fait avancer.
Ça permet de comprendre les processus et peut-être de s'éloigner un peu du jugement de temps en temps, quoi. Même si on salue pas forcément le geste,
Exact.
bien évidemment. J'enchaîne sur Ashanti. Alors on est à distance, tu vas pas pouvoir la voir, mais Ashanti, c'est une petite poupée que j'ai
Ouais.
ramenée du Ghana, qui est symbole de fertilité et qui m'accompagne sur chacune des interviews. Et cette poupée symbole de fertilité, elle est fertilité des bonnes idées, des idées qui ont du sens. Et du coup, je vais te la prêter
D'accord.
virtuellement. Elle va être dans tes mains virtuellement et tu vas pouvoir faire un vœu comme si c'était une baguette magique pour que le monde fasse plus de sens.
Donc une baguette magique, je prends un chantier et je fais un vœu.
Voilà, tu vas nous le partager le vœu.
J'aimerais vraiment sincèrement qu'aujourd'hui on ne meure plus de cette problématique qui est l'eau. C'est vraiment mon souhait le plus cher.
Eh bien, Ashanti va t'accompagner dans cette mission, même si je pense que tu es a priori sur la bonne voie.
J'espère.
Donc, merci de contribuer à cette problématique. Je vais conclure cette interview avec une petite question, qui est d'ailleurs la question qui t'a permis d'être aujourd'hui sur le podcast. J'aimerais te demander de recommander quelqu'un qui aurait aligné ce qu'il fait et ce qu'il est et qui mériterait de passer, sur le micro de Insensé.
S'il y a vraiment une personne ces derniers temps avec qui j'ai beaucoup échangé et qui me paraît vraiment en accord avec ses valeurs, c'est Simon Bernard de Plastic Odyssée.
J'allais te demander, c'est génial, parce
Ouais.
que là, comme tu m'en as parlé plusieurs fois, le fameux marin qui est derrière ce projet, c'est ça?
Ouais. Il est incroyable et donc très honnêtement, je pense que ouais, c'est quelqu'un que tu devrais interviewer.
Merci beaucoup, Khaled. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Les épisodes évoluent avec vos retours et commentaires ainsi que votre soutien. Si cet épisode vous a plu, la meilleure manière de soutenir le podcast Insensé, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je me réjouis de les mettre en lumière en début d'épisode. Vous pouvez aussi suivre la page Instagram @insensé_ et partager sans compter. Car quand on aime, on ne compte pas. Ashanti et moi, on vous remercie d'avance. Derrière le podcast Insensé, un magicien du son. Son nom, Benjamin Roy. Il monte un studio pour les podcasteurs. Sa promesse, un grand respect des oreilles des auditeurs pour une qualité d'écoute confortable. Il travaille le rythme, les enchaînements, supprime les respirations, les bruits de micro et j'en passe. Benjamin, c'est un chic type de Marseille. Il est surtout sound designer. Il accompagne les podcasteurs, les comédiens en home studio et tous les métiers de l'audiovisuel. Et voilà ce qu'il propose. De la formation, de l'aide au setup des outils, mais aussi du montage et du mixage. Retrouvez ses coordonnées en description de l'épisode. Merci Benjamin. N'oubliez pas d'aller regarder tous les liens utiles et sensés disponibles dans la description de l'épisode sur votre app d'écoute favorite. À dans 2 semaines. Prenez bien le sens. Qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens. Non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens. Mettez-vous sans dessus-dessous. Car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
Waouh ! Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez.
Décollez.
La vie a-t-elle un sens ? Qui suis-je ?
Il est complètement fou, ce mec !